Ce fut 3 jours après qu'il eut son emploi procuré par mon père. Lorsque je le vis placé, je crus ne devoir plus rien déguiser. Je dévoilai à mon père une partie des horreurs que j'avais souffertes. Mais il en est beaucoup que l'on ne trouvera qu'ici. Jamais je n'eus la force de les faire passer mes lèvres. D'après cette réticence, mon père me recommanda la patience et me représenta que j'avais un fils. Il alla plus loin. Il me promit la protection immédiate de l'homme en place qui employait Moresquin. Et, pour exciter ma confiance, il me raconta comment il l'avait proposé et comment il avait été accepté. Quand mon père se vit obligé de parler d'après la lettre de M. d'Oiseaumont, il alla chez l'homme en place qui lui donna l'audience la plus flatteuse en lui disant « On m'a dit que j'étais assez heureux pour pouvoir vous obliger. » Certainement, on ne pouvait s'exprimer avec plus de noblesse et de générosité. On ne pouvait rien dire qui excitât davantage la confiance. M. Saxancourt fut attendri. Il se jeta sur la main de l'homme respectable. « Je vous l'avouerai, dit-il ensuite, je vous donne un mauvais sujet. Il est mauvais fils, mauvais mari. Il ne rend pas sa femme heureuse. Ah, grand Dieu ! Mais la probité ? » Mon père ne savait alors rien de contraire. Il répondit « Pour cela, je le crois sans reproche. Monsieur, je vous supplie d'employer votre autorité à le contenir. Je vous le promets et je lui parlerai comme il conviendra. » Il fit appeler Moresquin et lui déclara que, ne le connaissant pas et ne l'obligeant que par rapport à son beau-père et à moi, il entendait qu'il me rendit heureuse et qu'il eut pour mon père tout le respect qu'il méritait. Moresquin répondit « Monseigneur, je ferai tout ce que je pourrai d'après ma petite fortune. » Telle avait été la manière dont Moresquin fut installé. C'est d'après elle que mon père me rassura et me promit une protection puissante. Il alla jusqu'à se féliciter d'avoir placé Moresquin parce qu'il regarda ce bienfait comme un moyen de le réprimer. Il me dit plusieurs fois « Il a un maître à présent. » Une apparence de tranquillité brilla pour la première fois à mes regards, offusqués auparavant par le désespoir. Mais que ce calme trompeur fut de courte durée. À peine placé, Moresquin, qui avait ses vues, car, quoique le plus borné des hommes, il est pénétrant lorsqu'il s'agit de préparer une scélératesse, Moresquin, à peine placé, rechercha la société de Fromental plus que jamais. Ce commis, accoutumé à ce que j'ai su depuis à avoir pour maîtresse des femmes mariées, dont les maris le choyaient et le régalaient, seconda, sans les connaître, les vues de Moresquin. Il vint souvent chez nous. On fit ensemble des parties, et comme Fromentel est fort avare pour ne rien dépenser, lorsqu'il proposait une promenade, il menait toujours chez des parents qu'il avait à la campagne. Là, on était bien reçu à cause de lui, et le séjour qu'on faisait compensait les repas donnés par nous à la ville. Les personnes sages que j'ai consultées depuis sur la liaison si vivement désirée par Moresquin avec le jeune Fromentel en entrevirent les motifs. Le monstre de noirceur voulait faire passer son confrère pour mon amant, et motivé par mon inconduite et sa jalousie, les nouveaux sévices qu'il se proposait d'exercer. Car il faut que Moresquin soit cruel. Sa méchanceté est sa vie, et il n'a aucun plaisir lorsqu'il ne voit pas gémir une victime de sa barbarie. Un jour, veille de 3 fêtes que nous allions passer chez les parents de Fromentel, en chemin, Moresquin parlait sans cesse au jeune homme de sa bonne mine. « Ma femme, ajouta-t-il enfin, sent tout cela encore mieux que moi. Aussi, elle t'aime, tu le sais bien. » Et le plus doux de ses désirs, c'est que je meure pour t'épouser. » Que répondre à un pareil discours ? On se tut. Je savais surtout qu'il aurait été également dangereux pour moi de répondre d'une manière ou d'une autre. Moresquin feignit de s'attendrir. Il versa des larmes. « Ne pouvoir, disait-il, être aimé d'une femme que j'adore. » « Ne fais donc pas ces giries-là, lui dit trivialement Fromentel. Est-ce que tu crois m'en imposer ? Si, madame, même, c'est qu'elle a du goût, car tu es diablement laid. » Moresquin, piqué de ce mot qu'il n'attendait pas, réfléchit un moment. « Tu n'es pas le plus dangereux. » Puis, réfléchissant qu'il pouvait empoisonner le reste de mes jours et ma réconciliation avec mon père, il ajouta « Il y en a un autre dont je suis plus jaloux que de toi. » Je m'arrête ici. Moresquin, dans la seule vue de mortifier Fromentel sans penser un seul mot de ce qu'il disait, se livra sans réserve à un plaisir si vif pour lui de dire des infamies abominables. Je hasardais de lui demander comment il se pouvait qu'il imaginât les horreurs qu'il débitait. Il assura qu'il les tenait de ma tante. Depuis, en présence de Madame Bitez, il a nié ce propos infâme et m'a traité de menteuse. Elle signera ses mémoires. Je voulus dire encore un mot, mais un coup de poing dont le pouce m'entra dans les deux côtes me fit entendre qu'il fallait garder le silence. Fromentel sourit, ne croyant pas le coup si fort, quoiqu'il me vît pâlir, et dit à Moresquin, « Tu as une manière à toi d'avoir raison, mais je ne te conseillerais pas de l'employer avec tout le monde. » Cependant, j'étais prête à me trouver mal. Fromentel m'offrit son bras que je refusai. Un regard de Moresquin me força de le prendre. Ce fut ainsi qu'à moitié morte de douleur, de crainte et d'effroi, j'arrivai chez les parents du jeune homme. Le reste de la partie de plaisir fut conforme à ce début. On soupa. Moresquin, qui n'est pas sobre et qui a l'insolence de se faire servir chez les autres comme s'il était à l'auberge, demanda du vin, de l'eau-de-vie et s'enivra. Lorsqu'on eut quitté la table, il ne fut pas possible de le faire coucher. Il s'obstina, malgré les prières de la maîtresse de maison, à rester auprès du feu en buvant et en proférant des horreurs contre mon père qui venait de le placer. À 2 heures du matin, le maître et la maîtresse, impatientés, lui retirèrent le vin, éteignirent le feu et allèrent se coucher. Moresquin s'endormit, et ce ne fut que sur les 5 heures que, s'étant éveillé glacé, il vint se coucher auprès de moi, m'éveilla en me gelant. Il me contraignit de souffrir ses pieds entre mes cuisses et ses deux mains sous mes aisselles. Il avait si froid que je tremblais bientôt et que j'amassais un rhume. C'est un des plus cruels supplices que j'ai éprouvés. C'est celui qui marque le plus la tyrannie de l'odieux Moresquin, mon esclavage et sa cruauté brutale. Il savait que Fromentel était couché tout proche de nous et pouvait nous entendre. Lorsqu'il se fut réchauffé, il voulut se satisfaire, et il employait les expressions les plus obscènes pour m'intimer ses volontés. Je ne crus pas devoir résister, espérant que ma docilité l'empêcherait de se livrer à des excès de brutalité ou de luxure. Je me trompais. Moresquin s'excéda. Excité par l'idée que tout était entendu par Fromentel, il se livrait à sa brutale passion, avec une ardeur, avec un excès, une fureur inconcevable. Si j'entreprenais de le modérer, il me tordait la chair des bras ou des cuisses. Si je poussais un cri, c'était pour lui une occasion de dire des infamies. Jamais nuit ne fut plus cruelle, car les malheureuses qui donnaient les plaisirs à Moresquin ne les partageaient jamais. Il violait ses épouses ou ses maîtresses, et il ne goûtait sa détestable volupté qu'autant que sa victime était dans les angoisses et versait des larmes. Il était 7 heures du matin lorsque sa rage cessa. Il s'endormit alors. J'étais tenté de me lever, mais il faisait très froid, et le jour ne pénétrait pas encore dans la chambre. Je m'assoupis de fatigue. Environ 1 heure après, je m'éveillais découvert et transi de froid. Je me levai à demi pour reprendre le drap et les couvertures. Moresquin était enveloppé dedans et ronflait par terre. Je me hâtai de m'habiller. J'étais toute transie et dès que je fus couverte, je courus auprès du feu. Je priai les 2 hommes de la maison, Fromentel et son parent, d'aller relever Moresquin. « Non, parbleu, le chien !» répondit le parent. « J'ai entendu sa vie ce matin. C'est un réprouvé, c'est un enragé que cet homme-là. Ma femme en a déserté le lit et est descendue ici se chauffer. Fromentel dit qu'il avait été tenté de tomber sur lui avec un air de bœuf, ne doutant pas qu'il ne fût le motif de ses excès, mais qu'il avait été retenu pour le respect pour la maison. Personne ne voulut donc aller relever Moresquin, et on le laissa ainsi jusqu'à 2 heures qu'il s'éveilla. On l'entendit jurer, crier. On alla pour l'or à lui. Les menaces les plus cruelles me regardaient. On l'assura fort qu'il était tombé depuis mon départ. Il dit que je devais rester où il était. On lui observa qu'il n'était pas chez lui et que je me devais aux personnes de la maison. On lui dit ensuite qu'il devait savoir vivre et ne pas venir chez les gens pour troubler leur tranquillité. Là-dessus, la maîtresse de la maison l'apostropha d'une manière si vive sur tout ce qu'il avait fait et dit depuis la veille que malgré son effronterie, Moresquin parut sot et garda le silence. Il voulut même rire, mais Madame Fromentel ne le lui permit pas. Elle lui parla si ferme qu'elle le força de lui faire des excuses. Il fut sage jusqu'au dîner pendant lequel il s'enivra encore, ce qui fut cause qu'on nous pria de nous en retourner à Paris. Ce fut alors que le cœur me battit de crainte, d'effroi, d'horreur, de toutes les passions funestes, car il n'en est aucune que ne me fît éprouver l'odieuse présence de Moresquin. Mais avant notre départ, Madame Fromentel me prit en particulier. « Vous êtes bien bonne. Montrez-lui les dents à ce plat personnage-là, et vous verrez ce qui en résultera. Croyez-moi, montrez-lui les dents. » Elle ne put m'en dire davantage. Nous arrivâmes à Paris de bonne heure. En chemin, Fromentel, que Moresquin avait compromis, lui en fit les reproches les plus forts, et ils furent plusieurs fois sur le point de se battre. Je commençais à suivre les conseils de la belle sœur de Fromentel, je ne fis aucun mouvement pour les séparer. Moresquin en était furieux, et quelque grande que fût la platitude de le dire, elle lui échappa. Je lui répondis fermement que, s'il était rossé, il n'aurait que ce qu'il méritait. À ce mot, il leva le bras. « Ose frapper, monstre !» lui dis-je. « Tu auras ma vie ou j'aurai la tienne. » Au lieu de frapper, le vil personnage se mit à rire en disant « Ah ! Voilà l'effet des conseils de Madame Fromentel. Je la reconnais bien là, car elle m'en a dit autant. Ah, sa mamie, ajouta-t-il, n'y reviens plus avec ce ton-là. » Je ne répondis rien. Il voulut venir auprès de moi un moment après. Je l'observai. Je tirai mon couteau. Il vint pour me donner un coup sur la nuque suivant son détestable usage. Et ce fut un de ces coups donnés du côté de la main qui, dit-on, dérangea une vertèbre à sa première femme et la conduisit au tombeau. Je venais de la prendre. J'esquivai le coup et, feignant de vouloir me jeter sur lui, je m'écriai « Monstre, c'est aujourd'hui ton dernier jour !» Il eut si peur qu'il alla se mettre derrière Fromentel à qui je dis « Le misérable venait pour me donner le coup qui a tué sa première femme. » Ce reproche le mit en fureur. Mais j'observai qu'elle ne fut qu'en mots, il n'osa m'aborder. Encouragé par là, je ne le ménageai plus. Je lui reprochais ses infamies, ses cruautés, ses bassesses. J'étais comme une forcenée, comme une furie. « Monstre, ajoutai-je, mon parti est pris. Cette nuit sera ta dernière. Je veux périr, mais je veux périr vengé. Je me suis marié malgré mon père. Je n'ai de reproche à faire à personne. Je ne veux punir que moi et toi, infâme, qui m'a cruellement trompé, qui a séduit ma tante et secondé la haine d'une mère dénaturée. Je te jure la mort et tu l'auras. Si tu me tues, tant mieux, tu périras à la grève. Mais au premier coup que tu donneras, tu me tueras ou je te tuerai. Je ne cesserai que tu ne sois mort ou que je ne sois expiré. Oh, le plus vil et le plus lâche des scélérats, qui calomnie tout le monde, mon père, le tien, ta propre mère qui t'a gâté. Homme vil et bas, tu as mis le comble ce matin. Plus de répit pour toi. » Je me tus, suffoqué. Je ne pouvais en dire davantage. Fromentel était stupéfait. Il fit quelques mauvaises plaisanteries sur les femmes. Ensuite, il dit à Moresquin, « Tu mérites cela, et notifie pas. Une femme irritée et pique une lionne. Te voilà au bout de ton rouleau. Cède ou, ma foi, je ne te réponds de rien. » Moresquin gardait le silence. Et moi, je tremblais de tout mon corps, ne sentant rien moins au fond de mon cœur que le courage que je venais de montrer de bouche. Tandis que j'étais dans cette perplexité cruelle, Moresquin s'approchait de moi et me dit « Si tu veux la paix, tu auras la paix. Que ton père me fasse seulement 600 livres, avec l'emploi qu'il m'a procuré, je serai content. Tout ce que je t'ai fait depuis que je te maltraite n'a été que pour te forcer à faire des démarches auprès de ton père, pour qu'il me voie, qu'il me parle, qu'il me reçoive. Il m'a toujours accablé de mépris, et je me suis vengé sur sa fille chérie. Oui, j'aurais voulu, pour le mortifier, te voir raccrocheuse, et qu'il t'eût rencontré, j'aurais tressailli de plaisir. Mais je te hais si peu, toi, personnellement, que je t'aurais reprise après avoir fait ce métier, et j'aurais montré à ton père que je sais pardonner. Pardonner, infâme, un avilissement où tu as tenté de me plonger. Il est vrai. » À ce mot, Fromentel lui dit, « Prends garde que d'autres ne t'entendent, tu serais perdu. » Oh, ce que j'en dis, c'est pour ne pas la contrarier. Je ne pouvais comprendre cet excès de modération. Intérieurement, je rendais mille grâces à Madame Fromentel de son bon conseil et de la manière forte avec laquelle elle me l'avait donné, car elle n'était pas la première, mais elle était la seule qui m'eût persuadé. Lorsque nous fûmes arrivés à la maison, je continuais sur le même ton. Je n'en changeais plus. Il était d'accord avec mon cœur. Heureuse, ou du moins louable, si toujours exaltée, j'avais pu n'en jamais changer. J'avais un protecteur dans mon père. Je le fis sentir à Moresquin. Et j'eus la satisfaction de voir qu'il redoutait mon défenseur. Mais faute de m'observer dans une occasion, j'oubliais de montrer de la fermeté. Je laissais paraître de la crainte. J'eus une scène terrible. Les coups pleuvaient sur moi comme la grêle. J'eus recours à mon couteau. Un polisson, ami de Moresquin, nommé Vulda, était présent à cette scène. Moresquin, en voyant ma fureur, demeura tranquille. Je me félicitais, croyant avoir trouvé un moyen infaillible. Mais bientôt, d'autres torts et d'autres inconvénients me rendirent le séjour avec Moresquin impossible.